Donc, je vous propose effectivement cette conférence Transhumanisme et christianisme, le regard critique d'un théologien catholique. Et je partirai d'une interpellation, l'interpellation d'une des figures marquantes de la galaxie transhumaniste, qui s'appelle M. Max Mohr, même si Mohr est un nom d'emprunt, et qui veut évidemment est un nom programmatique, hein, celui qui est déjà augmenté, Mohr, c'est plus. En tout cas, le 5 septembre 2009, M. Max Mohr intervenait dans un colloque organisé par le diocèse de Pistoia en Italie. Et le titre de sa conférence était « Why Catholics should support the transhumanist goal of extended life ». Hein, donc pourquoi est-ce que les catholiques devraient apporter leur soutien à la finalité transhumaniste, à l'objectif transhumaniste de prolonger la vie humaine. Cet homme qui se déclare d'emblée athée, non-religious, essayait donc de convaincre les catholiques que l'objectif de prolonger indéfiniment la vie, un des objectifs centraux du transhumanisme, rejoignait l'insistance des chrétiens sur le caractère sacré de la vie, ainsi que leur engagement pour soulager la souffrance due à la maladie ou au vieillissement. Une vie indéfiniment prolongée nous donnerait d'ailleurs, ajoutait-il, plus de temps pour vivre vertueusement, servir Dieu et sauver les âmes. Alors, les catholiques devraient-ils accueillir favorablement l'objectif transhumaniste de prolonger la vie indéfiniment ? Devraient-ils, ces mêmes catholiques, plus largement adhérer au projet énoncé par Nick Bostrom et Julian Savulescu de l'Université d'Oxford, je cite, d'utiliser la médecine et la technologie pour refaçonner, manipuler et augmenter de nombreux aspects de la biologie humaine, même chez des individus sains. Après tout, si on va se référer à la boussole pour les catholiques de notre temps, que reste le Concile Vatican II, nous lisons dans le Concile Vatican II que, je cite, « Le gigantesque effort par lequel les hommes, tout au long des siècles, s'acharnent à améliorer leurs conditions de vie correspond au dessein de Dieu. » Alors voilà, est-ce qu'on est avec le transhumanisme dans cette perspective de, en améliorant la condition des hommes, de répondre au dessein de Dieu sur les hommes? Pour répondre au moins en partie à ces interrogations, j'aimerais revenir sur quelques points clés de la pensée transhumaniste, avant de proposer des pistes de discernement éthique, puis, dans un troisième temps, quelques éléments de réponse de la part des chrétiens. Donc d'abord, quelques points clés de la pensée transhumaniste. Il y a plusieurs écoles dans le transhumanisme. Il me semble que nous pouvons cependant discerner, dégager quelques points clés partagés par tous. D'abord, l'objectif commun, donc, de transformer l'espèce humaine par l'augmentation des capacités humaines, puis le prolongement indéfini de l'existence grâce aux technologies convergentes. Et enfin, je souhaiterais souligner que ces objectifs reposent sur une vision très cérébrale de l'homme. Alors, d'abord, améliorer les capacités physiques, psychiques et éthiques de l'homme. Psychique, physique et éthique de l'homme. Le même Max Mohr, dans son manifeste Principe extropien 3.0, qu'on trouve sur Internet, pour lui, le principe de la transformation de soi est central. Que veut dire, pour Max Mohr, la transformation de soi? Cet objectif consiste en, je cite encore, l'amélioration de soi au plan physique, intellectuel, psychologique et éthique. L'amélioration éthique, tout d'abord, passe par un travail constant de réexamen de sa vie au regard du système de valeurs extropien, un système de valeurs centré sur la triade de l'honnêteté mutuelle, de la communication ouverte et de la bienveillance. Une bienveillance qui, soit dit en passant, semble difficile aux extropiens à exercer vis-à-vis de ce qu'ils appellent les dogmes religieux, politique ou intellectuel. Bienveillance, mais avec certaines limites tout de même. Mohr professe donc un certain altruisme, dans un contexte cependant utilitariste, car l'amélioration qu'il recherche des relations personnelles est fondée dans son esprit sur l'existence d'intérêts mutuels. un altruisme utilitariste, on va dire. Voilà pour l'amélioration éthique. Pour ce qui est de l'amélioration physique, intellectuelle et psychologique, elle est focalisée sur, je cite, « l'augmentation biologique et neurologique qui serait obtenue par des moyens tels que les stimulants neurochimiques, les ordinateurs et les réseaux électroniques, les agents intelligents, le développement de capacités de pensée critique et créative, la méditation et les techniques de visualisation ». Les stratégies d'apprentissage accélérées et enfin la psychologie cognitive appliquée. Voilà pour les principes extropiens 3.0. Pour prendre un autre texte de référence, qui est la déclaration transhumaniste, déclaration dont More est l'un des signataires, il est également question d'accroître les capacités humaines, après discussion publique cependant, en veillant à réduire ce qui constituerait des risques existentiels, enfin, en respectant l'autonomie et les droits individuels et en se montrant solidaire et attentionné vis-à-vis des intérêts et de la dignité de chacun dans le monde, sans oublier les générations futures. Donc voilà un programme ambitieux, on va dire, de transformation, mais qui s'inscrit dans une volonté affichée de respecter l'autonomie de chacun et de ne forcer personne, de prendre en compte les effets secondaires éventuellement négatifs du projet d'amélioration des capacités humaines. Donc, pour résumer ce premier point, volonté d'améliorer avant tout les capacités physiques et psychiques de l'être humain au nom de son bien-être, sans que cela se fasse au détriment d'une certaine éthique. Alors, pour le deuxième point, c'est deuxième objectif phare du transhumanisme, prolonger indéfiniment la vie humaine. Cette volonté de prolonger indéfiniment la vie humaine, elle est exprimée dans le fameux rapport de 2002 de Mikhail Rocco et William Bainbridge sur les technologies convergentes, rapport américain. Ils considèrent, par exemple, qu'une vie digne et active est possible bien au-delà des 100 ans. L'un des chercheurs qu'ils ont sollicité, Warren Robinett, R-O-B-I-N-E-T, envisage la possibilité de transférer les données du cerveau sur un ordinateur permettant d'atteindre l'objectif « no death ». En effet, il suffirait d'effectuer constamment les mises à jour nécessaires. Pour sa part, la déclaration transhumaniste, toujours elle, vise à encourager les thérapies permettant l'extension de la vie. Max More, tout en étant sceptique sur la possibilité d'une réelle immortalité physique, revendiquait dans sa conférence à Pistoia la recherche d'une durée de vie indéfinie. Enfin, comme vous le savez, en septembre 2013, Google, dont l'un des conseillers est le transhumaniste Ray Kurzweil, fondait la California Life Company, connue comme Calico, avec l'objectif de mieux connaître la biologie humaine pour permettre aux gens de vivre des vies plus longues et en meilleure santé. Ce bref tour d'horizon amène un constat. L'objectif de cette course à l'immortalité, ou au moins à la longévité, repose sur une assimilation du bonheur à une vie en bonne santé, à un certain bien-être, étant entendu qu'il n'y a pas à espérer un bonheur post-mortem. Mais plus encore, ceci intéressera sans doute les juristes, pour les transhumanistes, le vieillissement et la mort, n'étant pas nécessaires, deviennent d'inutiles désagréments, voire des injustices insupportables. C'est ainsi qu'une autre personnalité du monde transhumaniste, M. Mike Treader, qui a disparu dans la nature d'ailleurs depuis quelques années, Mike Treader considère la mort comme, dit-il, ou écrit-il plutôt, une sentence d'exécution sommaire que la Cour d'appel de la science et de la technologie devrait annuler. Alors, maladie et la mort surtout, une sentence d'exécution sommaire que la Cour d'appel de la science et de la technologie devrait annuler. La mort tient donc l'humanité en esclavage, et nous pouvons espérer que la biotechnologie et la nanomédecine permettent, c'est toujours Mike Treader, que nous vivions pour toujours, libérés de la maladie, des affections, du handicap physique, toujours jeunes et vigoureux, libres de faire tout ce que nous voulons de nos vies, libéré des contraintes d'une mauvaise santé et de la fragilité physique. L'idéal d'une longue vie en bonne santé et avec un bon moral est également ce que recherche Ray Kurzweil. Reprenons la métaphore proposée par Aubrey de Grey qui compare nos corps et nos cerveaux à une maison. Kurzweil se dit confiant dans notre capacité à bientôt connaître les principes biologiques de la vie pour nous permettre d'assurer la maintenance de notre maison. Alors voilà, Kurzweil parle de nos corps et nos cerveaux. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est le fait que les transhumanistes ont une vision très cérébrale de la personne humaine. Il est habituel chez eux de se concentrer tellement sur les capacités cérébrales que l'homme en est réduit à n'être qu'un cerveau porté par un corps mécanique. Dans ses rêves, Mike Treader considère que le transfert de notre cerveau à l'intérieur d'un robot ou même le téléchargement d'une copie digitale de notre cerveau dans un robot permettrait d'y injecter l'ensemble de notre personnalité. D'ailleurs, il convient, selon lui, de penser nos corps comme des robots organiques. Cette machinerie pourrait être améliorée en suivant les méthodes de recherche déjà présentes dans le monde industriel, jusqu'à utiliser les techniques de simulation sur des modèles virtuels. En fait, selon le scénario décrit dans le film Avatar, Treader suggère que nous pourrions préférer, à terme, vivre dans une structure virtuelle évoluant dans un monde virtuel. Le point est que pour lui, ce qui est vraiment moi, ce qui constitue ma conscience et ma personnalité, mon cerveau, a simplement besoin d'une interface avec la réalité. Et je le cite encore, cette interface peut être le corps physique que j'habite en ce moment, pourrait être un télérobot explorant la surface de Mars, ou pourrait être le substrat informatique fournissant une expérience dans un environnement simulé. Donc, notre corps est une simple interface avec le réel qui peut être changé, substitué par un robot ou ce qu'il appelle ce substrat informatique. Kurzweil tient une position similaire. Selon lui, nous sommes principalement un échantillon, pattern en anglais, un échantillon de matière et d'énergie qui persiste dans le temps. Un échantillon donc de matière et d'énergie qui persiste dans le temps. Or, cet échantillon est en constante évolution du fait de la transformation rapide et régulière de nos cellules et de nos neurones. Aussi, ce ne serait pas une grande révolution si nous décidions de changer progressivement des portions de notre cerveau. En copiant les données du cerveau, à la manière des données d'un ordinateur, là encore, nous devrions pouvoir nous déployer en une personnalité nouvelle, voire en plusieurs personnalités à la fois. Une vie prolongée, heureuse, est en fait, pour les transhumanistes, c'est ça le point que je voudrais souligner, une vie prolongée, heureuse, est en fait celle d'un cerveau performant dans une enveloppe corporelle, ou mieux, dans une structure mécanique sans défaut. La vision de l'homme qui nous est ainsi proposée est celle d'un dualisme corps et esprit. Dualisme, héritier notamment de la pensée du philosophe britannique John Locke du XVIIe siècle, selon laquelle ce qui fait la personne est sa raison et sa conscience en acte, indépendamment du corps. Avec Moore, Treader ou Kurzweil, la conscience est comprise surtout comme une interaction neuronale comparable aux interconnexions informatiques, et le corps n'est qu'un matériau biologique interchangeable avec une machine. Logiquement, les frontières entre l'humain et le non-humain n'ont plus de sens, d'où le positionnement de la déclaration transhumaniste, qui ne se limite pas à l'objectif de favoriser le bien-être de l'homme, mais le bien-être, je cite, de toute sensibilité subjective. Toute sensibilité subjective, c'est comme ça que je traduis le mot anglais sentience, toute sensibilité subjective, ce qui inclut, poursuit la déclaration, les humains, les animaux non humains et toutes les intelligences artificielles, formes de vie modifiées ou autres types d'intelligence que le progrès scientifique et technologique pourrait faire émerger. pour Max Mohr d'ailleurs, l'humanité n'est qu'une phase de transition dans le développement évolutionnaire de l'intelligence. Dès lors, l'objectif final ne serait pas une amélioration de l'humanité pour elle-même, mais une amélioration de l'humanité destinée un jour ou l'autre à se sacrifier au profit d'un autre support plus performant pour que l'intelligence avec un grand I puisse mieux déployer ses propres capacités. Ici, je touche évidemment à la distinction qu'on fait parfois entre transhumanisme et posthumanisme, mais quand on lit des lignes comme ça chez Max Mohr, on se demande si, en tout cas, la plupart des transhumanistes ne sont pas posthumanistes. Ces considérations sur la condition humaine n'apparaissent pas dans le plaidoyer de Mohr en terre italienne pour un ralliement catholique au projet transhumaniste. Elles sont cependant cruciales pour établir un discernement éthique, indépendamment de toute foi religieuse, ce que je voudrais maintenant esquisser. Donc, deuxième grand point, si vous voulez, question éthique. Le premier point que je voudrais souligner, j'aurai aussi trois points dans cette deuxième partie. Et le premier point qui me semble crucial, c'est que dans ce projet transhumaniste, le modèle, c'est la machine. Voilà, la machine comme modèle. La rhétorique transhumaniste prétend que l'homme a toujours travaillé à l'augmentation de ses performances. Et que cela commence, par exemple, avec l'ingurgitation d'une tasse de café, ce qui me permet d'être éveillé devant vous aujourd'hui. Par ailleurs, les transhumanistes prétendent s'inscrire dans la tradition multiséculaire des efforts pour soulager la souffrance. Ils ne font que mobiliser à cette fin les ressources actuelles de la technologie. Donc, ils font avec les ressources actuelles de la technologie ce qu'on a toujours fait. À preuve, par exemple, la production d'exosquelettes pour permettre aux paraplégiques de marcher, ou les implants cochléaires qui améliorent la condition des sourds. Il convient cependant de distinguer les inventions technologiques d'une part, l'usage que nous pouvons en faire d'autre part, et la vision de l'homme, enfin, que nous voulons promouvoir. Distinguer les inventions technologiques, l'usage que nous pouvons en faire et la vision de l'homme que nous voulons promouvoir. L'usage de la technologie pour pallier un handicap, avec un coût supportable pour la solidarité collective, est une entreprise certainement louable. Elle n'implique pas pour autant l'adhésion à une vision dualiste de l'homme, où le corps n'est qu'un support provisoire et interchangeable pour un esprit recueillant à lui seul les données de l'identité individuelle. Leibniz répondait déjà à Locke par rapport à sa vision rétrécie de l'être, concentrée sur l'esprit, confinée dans la conscience, réponse de Leibniz. Si l'homme pouvait n'être que machine et avoir avec cela de la consciosité, il faudrait être de votre avis, monsieur. Mais je tiens que ce cas n'est point possible, au moins naturellement. Donc déjà, Leibniz, grand scientifique en même temps grand philosophe, avait compris que la vision dualiste de Locke, qui réduit en fait la personnalité à être avant tout les capacités intellectuelles, conscience de soi, équivalait à dire que on pouvait avoir un esprit sur une machine comme sur un corps. Voilà. Plus proche de nous, Hans Jonas, qui aime bien Émilie, a qualifié le dualisme anthropologique de violence intellectuelle faite à l'expérience. La réalité du corps organique, d'une matière animée, rend illusoire la séparation entre biologie matérialiste et idéalisme de la conscience. Je le cite dans son livre « The Phenomenon of Life Toward Philosophical Biology », qui a été traduite en français aux éditions de Book. « Vie » signifie « vie matérielle », donc « corps vivant », en bref, « être organique ». Dans le corps est enserré le nœud de l'être, que le dualisme tranche sans le résoudre. Évidemment, allusion au fameux nœud gordien. Dans le corps est enserré le nœud de l'être, que le dualisme tranche sans le résoudre. Claude Bruère, philosophe français, écrivait déjà, quelques années plus tôt, du mouvement naturel à la conscience de soi, du mouvement naturel à la conscience de soi, se découvre comme l'étonnante donnée de l'existence humaine, un esprit propre au secret de la chair. Voilà, deux auteurs parmi d'autres qui tiennent très fermement à cette unité anthropologique corporelle et spirituelle. Or, la vision anthropologique du transhumanisme, nous l'avons vu, met à mal l'identité de l'homme corpore et anima unus. D'une part, le corps de chair est considéré comme un simple outil au service de la performance de l'esprit. D'autre part, l'esprit n'est plus englobé dans la profondeur de l'âme spirituelle. Il n'est qu'un lieu de stockage de la mémoire et des apprentissages acquis, téléchargeables sur ordinateur. Donc une réduction vraiment de la vie de l'esprit à une mécanique neurologique. Et alors ça, je fais allusion, mais il faudrait le développer plus, mais quelqu'un comme Thierry Magnin, qui est à la fois prêtre et physicien de haut niveau, a développé ça dans ses ouvrages. Il milite pour le retour à une anthropologie tripartite. J'ouvre ici juste une parenthèse, plutôt que de parler d'âme et corps, de parler d'âme et corps et esprit, pour rendre compte de la profondeur de la vie de l'esprit. Comme à la fois ce qui nous aide par l'intelligence spéculative et pratique à réfléchir et à agir, mais aussi la dimension de l'ouverture à la transcendance. Voilà. Mais surtout, dans cette anthropologie, par rapport aux efforts antérieurs d'amélioration de la condition humaine, c'est le point que je veux souligner, la révolution qu'apporte le transhumanisme est donc de considérer la machine comme modèle pour l'homme. L'artefact est devenu la référence pour juger les performances de celui qui l'a façonné. Le philosophe Yves-Charles Zarka, Z-A-R-K-A, souligne que le transhumanisme s'inscrit dans, je cite, « la vision machinique du monde », initiée par Julien de la Mettrie au XVIIIe siècle, et lui donne une nouvelle orientation. La Mettrie voyait l'homme comme une machine naturelle, sans âme, et préconisait dès lors une éthique hédoniste autour des plaisirs du corps. Le pauvre malheureux Lamettrie, qui était un bon médecin par ailleurs, est mort d'indigestion. Il s'était tellement empiffré qu'il est mort en Prusse, je crois, parce qu'il était auprès de, comme bien des philosophes du XVIIIe, auprès de, je crois, du roi de Prusse. Donc Lamettrie voyait l'homme comme une machine naturelle, sans âme, et préconisait dès lors une éthique hédoniste autour des plaisirs du corps. Il n'était pas question pour lui de fuir la nature humaine ainsi mécanisée. Pour les transhumanistes, il s'agit de substituer la machine à l'homme. C'est le passage, dit Zarka, c'est le passage de l'homme-machine à la machine post-humaine. La maîtrise se passait de l'âme. Désormais, les transhumanistes veulent se débarrasser du corps. Pour eux, je cite ici Zarka, l'évolution artificielle prend le relais de l'évolution naturelle. L'esprit se sépare complètement de la nature et peut imaginer se donner un autre corps incorruptible. On passe ainsi de l'homme de plaisir et de jouissance de la maîtrise au post-humain sans sensibilité et sans désir qui ne meurt plus parce qu'ils n'ont jamais vécu. Comme Zarka l'exprime, la mécanisation complète de l'homme aboutit à la mort de l'homme, au moins au sens d'une vie sans relief, ni finalité. On pourrait faire allusion ici à la littérature, le voyage de Gulliver de Jonathan Swift. On a ces créatures bizarres au nom imprononçable, les Strudelbrugs, qui sont pratiquement immortels, qui sont distingués par leurs points rouges sur le front, et qui finalement meurent d'ennui parce que effectivement ils n'ont plus. D'abord ils finissent par être des étrangers au milieu des autres, tels que ils sont difficilement inclus dans la communauté, et puis ils meurent d'ennui. En tout cas, pour revenir à l'analyse de Zarka, comme il l'exprime, la mécanisation complète de l'homme aboutit à la mort de l'homme. Les cyborgs élaborés par la technoscience sont de simples systèmes codés. Le bien-être infiniment prolongé dans un corps en bonne santé se mue en perpétuel ennui. Sur de telles bases, l'amélioration proposée par le transhumanisme ne peut nullement, à mon avis, être au service de l'homme. Elle conduit plutôt à son aliénation sous la tyrannie de la performance. Et c'est le deuxième point que j'aimerais souligner dans cette critique éthique du transhumanisme. Après donc la machine comme modèle, la tyrannie de la performance. Logique, la machine étant devenue pour l'homme le modèle à atteindre, il devient soumis à l'évaluation de ses performances. Une machine se doit d'être performante. L'amélioration d'abord des capacités de reproduction, on ne parle pas de procréation, mais de reproduction, passe par l'élimination des êtres humains au stade embryonnaire jugé non performant. Ceux qui ont passé la première sélection sont poussés à l'amélioration des performances du corps, des qualités psychiques et des facultés intellectuelles. Malgré les affirmations de certains transhumanistes, notamment en France, selon lesquels leur projet s'inscrit dans un souci démocratique et social, il me semble que le modèle mécanique imposé à l'homme ne peut conduire qu'à une tyrannie de la performance. Certes, il y a une dimension sociale au transhumanisme. Elle est affirmée, nous l'avons revue, dans la déclaration transhumaniste, par exemple. Mais c'est celle, n'est-ce pas, celle d'une organisation sociale qui favorisera l'activité d'hommes toujours plus performant. Un historien du transhumanisme, Franck Damour, qui enseigne notamment à Lille, voit dans l'entreprise transhumaniste l'instauration, je cite, d'une humanité sous label. Je le cite en quelques phrases ici, le transhumanisme est une simple extension des process qualities à l'humain. On espère améliorer la qualité de l'individu comme on assure la qualité d'une production par des process. Déjà, les téléphones mobiles permettent la mesure de soi à travers le contrôle d'indicateurs corporels comme le rythme cardiaque, l'activité physique, etc. Les transhumanistes espèrent étendre cette production de soi à l'ensemble des organes et à la génétique. Il s'agit d'éliminer tout défaut, de produire un humain zéro défaut, zéro papier, zéro service après-vente, pour pouvoir lui attribuer un label qualité. En cela, le transhumanisme prolonge l'organisation néolibérale du travail, mobilisant la même rhétorique du dépassement de soi, de la responsabilité et de l'autonomie. Alors, ici, je fais une première incursion, j'y reviendrai sur les connivences entre le transhumanisme et l'économie néolibérale, voire ultralibérale. Selon Franck Damour, en tout cas, cette extension des process qualities conduira à une standardisation des personnes. Ça paraît paradoxal, mais voilà. L'homme devient une réplication, quelque chose de reproductible. Non plus une personne, mais un spécimen que l'on peut normer et labelliser. Ainsi, quand bien même le transhumanisme, ayant éliminé la notion de nature humaine, a évacué toute visée du parfait, et ouvert la voie à tous les futurs technologiquement possibles, il sera vite rattrapé par l'uniformité vers laquelle tend toute production industrielle à grande échelle. Le résultat pour la personne humaine est celui d'une triple aliénation, pour reprendre les réflexions de Jean-Guilhem Xéry. Jean-Guilhem Xéry est un essayiste chrétien qui a notamment été quelques années président d'une association qui s'appelle Au Captif la Libération, qui s'occupe de dialoguer et d'insérer, ou non, mais enfin d'essayer d'insérer des personnes de la rue. Et il a écrit un certain nombre d'essais. Et notamment, il voit dans ce projet transhumaniste, donc le risque d'une triple aliénation, je vous cite, premièrement une chosification de l'humain, mais aussi deuxièmement une aliénation sociale par la soumission à un ordre social fondé sur une logique de production et de performance, et enfin une aliénation au sens pathologique en expropriant toute intériorité. Cette réduction, on reviendra sur cette notion d'intériorité dans le troisième temps. Cette réduction de l'homme au niveau d'un artefact performant nous place, et c'est le troisième point que j'aimerais développer, dans une situation d'indétermination éthique. Alors, c'est peut-être le point, là c'est le point un peu difficile de mon intervention, un peu technique, cette indétermination éthique. Mais je vais essayer d'être à peu près clair si vous arrivez à me suivre. Le transhumanisme, comme d'ailleurs l'ensemble de l'idéologie bioéthique, hein, et je disais tout à l'heure à nos deux maîtres de conférence que ma conviction est que le transhumanisme est fils de la bioéthique étant pas seulement une casuistique d'éthique médicale, mais vraiment une idéologie, à mon avis. Donc le transhumanisme, est, comme l'ensemble de l'idéologie bioéthique, s'inscrit dans la logique, si vous voulez, au niveau épistémologique, la logique de substitution d'un monde construit au monde vécu. La substitution d'un monde construit au monde vécu. Ce monde construit, rappelait le philosophe Jean Ladrière, Jean Ladrière était philosophe des sciences, enseignant à l'Université catholique de Louvain. Ce monde construit, donc, a pour composante matérielle l'univers d'artefacts, toujours eux, l'univers d'artefacts qui s'interpose désormais entre l'être humain et la nature, composante matérielle de ce monde construit, et pour composante idéale, la vision scientifique du monde qui sous-tend la création et le fonctionnement des artefacts. Donc, monde construit qui a pour composante matérielle les artefacts et pour composante idéale la vision scientifique du monde qui permet de produire dans la science pratique et ses applications les artefacts. Or, cette composante idéale scientifique qui sert de mode de compréhension du monde, construit donc, opposé au monde vécu, cette composante idéale qui sert de mode de compréhension du monde construit et qui, évidemment, apporte de grands services à l'humanité, mais écarte par méthode toute expérience vécue. Écarte par méthode... La rigueur de la méthode scientifique demande de, on parle des sciences dures ici, et demande d'écarter toute expérience vécue en la remplaçant par la représentation qui fait voir le monde à travers des modèles abstraits. Par conséquent, poursuit Ladrière, l'interprétation de l'expérience selon ce mode de compréhension n'a plus rien d'une interprétation existentielle. Par méthode, on met de côté l'expérience vécue. Donc, pas d'interprétation existentielle du monde. Or, l'action, hein, l'action qui est au fond le cœur de ce qui est soumis à l'analyse éthique, hein, l'action est par elle-même existentielle. L'action humaine est par elle-même existentielle. On peut dire, conclut Ladrière, que l'avènement de l'univers construit engendre une situation globale d'indétermination éthique. Hein, si vous voulez, qu'est-ce qu'il y a derrière cette critique ? La critique, c'est le fait que la science déborde de son champ légitime d'action pour devenir la seule matrice de compréhension du monde et jusqu'à se substituer au monde vécu. D'une manière ou d'une autre, le constructivisme transhumaniste aboutit à un relativisme moral qui ne satisfait pas l'exigence universelle de la raison humaine. Soit l'éthique est réduite à une simple régulation déontologique des transformations opérées sur l'homme, une régulation soumise au fond à la dynamique illimitée des désirs transhumains. On a j'ai en tête certaines interventions, notamment de start-upers, disant oui, évidemment, le transhumanisme pose des questions éthiques, mais vous ne s'en faites pas, ça va s'auto-réguler. Mais en fait, quand vous avez un système dont la dynamique est vraiment les désirs illimités, voilà, il n'y a pas d'autorégulation et la régulation ne fait que suivre le mouvement. Soit l'éthique ne fait qu'énoncer un sorte de code de bonne conduite des relations quotidiennes, hein, comme la triade extropienne de Max Moore à laquelle je faisais allusion, hein, honnêteté mutuelle, communication ouverte et bienveillance. Bon, c'est bien, hein, mais au fond, c'est un peu limité parce que ça exclut, a priori, les questions fondamentales posées par l'entreprise transhumaniste sur le statut de la personne humaine, sur l'anthropologie et sur ce que deviennent ceux qui n'entreraient pas dans ce projet transhumaniste dont, entre nous, je pense que bien des objectifs ne viendront jamais à terme. D'ailleurs, parce que l'éthique, est-ce qu'une éthique est possible, hein, si elle ne va pas jusqu'à s'affronter, ou se confronter, en tout cas, se confronter aux questions fondamentales que sont la naissance et la mort. Vous voyez comment la mort est vue comme un simple problème à résoudre, pas comme une question éthique fondamentale. Hein. Et d'ailleurs, le monde transhumaniste ignore la notion de mal moral. Dans sa conférence de Pistoia, Moore déclare que l'extension de la vie nous donnerait, donc, vous avez souri, nous donnerait plus de temps pour grandir en vertu, accomplir des bonnes œuvres, servir Dieu et sauver les âmes. À aucun moment n'envisage-t-il que les vices pourraient aussi connaître une nouvelle plage pour s'étendre. Certes, il souligne que notre monde est imparfait et qu'une vie plus longue sur cette terre, je le cite, il s'adresse à des catholiques, pourrait sans doute être considéré comme une forme mitigée de purgatoire. Sans rentrer dans des considérations trop techniques, je dirais quand même que la référence de Moore au purgatoire est incertaine et imprécise, au mieux pélagienne, c'est-à-dire que l'homme se purifie par ses bonnes œuvres, mais voilà, sans du tout, bien sûr, par exemple, la question de l'intervention ou non d'un Dieu sauveur. Par ailleurs, la vision de mort, la vision qu'il peut avoir de l'imperfection, ne peut être assimilable au mal moral. Pourquoi ? Parce qu'il considère notre monde comme entièrement livré aux forces de l'évolution. Et en cela, il rejoint voilà, cette vision de ce que Ladrière a appelé ce monde construit, où la seule analyse pertinente du monde est celle que donne le monde scientifique, en l'occurrence les théories de l'évolution. Donc la notion d'offense aux autres n'entre pas en jeu. Si l'homme tout entier est le fruit de l'évolution, et pas seulement sa capacité physique, eh bien, il n'y a pas de raison de penser à un mal moral, à une offense aux autres, moins encore, bien sûr, d'offense à Dieu. Ainsi, Moore considère que le vieillissement, la sénescence biologique et la mort sont les produits de l'évolution. Comme tels, ils n'ont pas de statut moral, qu'il soit naturel ou divin. C'est lui qui parle ici. Comme tel, le vieillissement et la mort n'ont pas de statut moral, qu'il soit naturel ou divin. On est donc en dehors de différents récits humains, que ce soit des récits bibliques ou extra-bibliques, sur, au fond, le lien de la souffrance et de la mort à une question morale dans l'existence humaine. Si je reviens à Ladrière, pour sortir de l'indétermination éthique engendrée par ce monopole, si vous voulez, du monde construit, Ladrière considérait indispensable la réinscription de la compréhension scientifique du monde, il ne s'agit pas de l'abandonner, bien sûr, la réinscription de la compréhension scientifique du monde dans une compréhension existentielle. Dit autrement, la nécessité du retour au monde de la vie. Et ici encore, on serait proche de Jonas. Par la prise en considération, dit Ladrière, ce retour du monde de la vie, à condition donc de reprendre les conditions fondamentales qui assurent l'inscription de l'existence dans le monde vécu. Quelles sont ces conditions fondamentales qui assurent l'inscription de l'existence dans le monde vécu ? La corporéité, l'altérité, la temporalité. Trois conditions qui sont pour le moins malmenées par la pensée transhumaniste. L'altérité. On pourrait retrouver des similitudes chez Paul Ricoeur aussi. Dès lors, reste problématique, dans la perspective transhumaniste, le recours à un discours éthique authentique relevant de la raison prudentielle, c'est-à-dire d'un acte de la raison pratique qui replace l'existence vécue et les choix effectués dans la perspective du véritable accomplissement de l'homme. Je cite, enfin, je paraphrase ici toujours la Ladrière, évidemment on se retrouve ici dans la grande tradition éthique qui, avec des modifications, va, j'allais dire, cours de Aristote jusqu'à Emmanuel Kant et au-delà, chez le personnaliste par exemple. Voilà pour ce qui est, si vous voulez, d'une critique éthique. Et maintenant, dans un troisième et dernier temps, j'aimerais vous présenter ce que je vois comme quelques pistes de réflexion et d'action plus spécifiques au christianisme et qui rejoignent toutes les grandes allées de ce que j'appellerais la via caritatis chrétienne, c'est-à-dire, au fond, ce cœur du message chrétien qui est centré autour de l'amour de charité, l'amour qui donne sa vie pour les autres. Donc, troisième temps, quelques réponses chrétiennes. Et le premier point sera la promotion d'un humanisme du Dieu fait homme. Je tiens cette expression de mon ami philosophe Éric Fiat. Au fond, le christianisme propose un humanisme du Dieu fait homme. Revenons à cette boussole pour notre temps, en tout cas pour les catholiques, et l'Église catholique avait la prétention de penser que ça pouvait aider au-delà de la communauté croyante. Hein. Revenons au Concile Vatican II, qui écrivait, dont les évêques participants écrivaient en tout cas dans ce grand document Gaudium et Spes, Joie et Espérance, 1965, ils écrivaient « Le Concile se propose de s'adresser à tous ». Pour éclairer le mystère de l'homme et pour aider le genre humain à découvrir la solution des problèmes majeurs de notre temps, à la lumière du Christ, image du Dieu invisible. Sans vouloir être trop long, disons que si on se place dans l'histoire de l'Église, le Concile Vatican II marque la fin d'une, pour aller trop vite, mais d'une position de l'Église un peu de réaction de citadelle assiégée. Depuis la fin du XVIIIe siècle, jusque donc dans les années 60, il faudrait nuancer bien sûr, mais l'Église qui voit petit à petit son influence diminuer, voit des nouvelles pensées, systèmes de pensée venir, a cette réaction, et puis concrètement aussi l'occupation de ce qui était les états pontificaux, a un peu une réaction de citadelle assiégée, en se protégeant et en tirant sur tout ce qui bouge, voilà, c'est terrible, etc. Avec le Concile Vatican II, il y a une volonté vraiment d'ouverture, de dire, ok, s'il y a des tas de problèmes, oui, il y a un décalage entre l'Église et, disons, le courant majoritaire dans les sociétés occidentales, pour ne parler que des sociétés qui avaient été jusqu'alors imprégnées plus ou moins de christianisme. Mais ce que nous souhaitons, plutôt que de lancer des anathèmes, le Concile Vatican II est le premier qui ne se conclut pas par des anathèmes, de dire, nous, on veut proposer notre vision des choses au monde, et on sait qu'il y a des conflits, mais pour vous donner un seul exemple, considérons que dans l'athéisme, il y a aussi, quels que soient les affrontements parfois violents et les persécutions contre les chrétiens de système athée, il y a aussi des réactions à peut-être des erreurs des chrétiens ou des choses à prendre, ne serait-ce que par la réflexion qu'il y a. Voilà, donc... l'idée d'avoir cette ouverture, mais en proposant de scruter le mystère de l'homme à la lumière du Christ, image du Dieu invisible. Pour un chrétien, les projets d'amélioration ou d'augmentation de l'homme seront donc évalués à la lumière du mystère du Christ qui, pour citer encore Vatican II, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. Alors, là encore, enfin, je ne veux pas être trop long, mais il y a la volonté, si vous voulez, de proposer, de sortir de ce qu'on perçoit comme un mouvement où, en gros, l'homme doit conquérir son autonomie en repoussant toujours plus loin Dieu, et en disant, mais si le Christ est le Dieu fait homme, finalement, il n'y a pas de concurrence entre Dieu et l'homme. Le Christ à la fois révèle Dieu et révèle l'homme à lui-même, et il y a une volonté de réconcilier, si vous voulez, philosophie et théologie, humanisme et christianisme. Bon, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais ce n'est pas forcément notre propos. Je veux juste souligner deux points, si vous voulez, dans cette vision du mystère de l'homme et éclairé par le mystère du Christ. Premièrement, donc nous parlons volontiers du Christ glorifié, hein, le Christ qui, après sa mort, entre en gloire, dans son humanité glorifiée, hein, serait-ce que par la résurrection. Mais justement, la gloire du Christ reçue de Dieu le Père est une gloire reçue après l'humiliation de la croix. La victoire de l'amour divin qui est célébrée chaque année à Pâques par les chrétiens, ce n'est pas la victoire d'un homme invincible dans son corps bionique. C'est la victoire d'un homme que l'amour a rendu vulnérable jusqu'à la mort. Et voilà ce qui me semble être la radicale antinomie entre espoir transhumaniste et espérance chrétienne. D'un côté, on a l'exaltation prométhéenne de l'homme, l'homme augmenté dans ses performances physiques et psychiques, qui conduit finalement à son anéantissement, puisqu'il est ou qu'il devient une machine impersonnelle, qu'il devient le simple avatar de l'intelligence désincarnée, qu'il est appelé à disparaître au profit d'un support plus performant. Voilà. Alors, d'un côté, on a ça finalement, on va vous promettre monts et merveilles, et à la fin, vous découvrez que vous devez vous effacer devant la performance de la machine. De l'autre, au contraire, dans la perspective chrétienne, christologique, le mouvement est inverse. C'est l'anéantissement du Fils de Dieu, au sens d'une obéissance totale à Dieu le Père, qui conduit à son exaltation dans la gloire. Alors ici aussi, il y aurait à expliquer ce paradoxe. Il ne s'agit pas, j'allais dire, d'un père cruel qui envoie son fils à la boucherie. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Mais disons qu'il y a cette acceptation par le Fils, donc le Christ Jésus, de partager la condition humaine jusqu'à la mort pour conduire à l'exaltation dans la gloire et entraîner tous ses frères et sœurs humains à sa suite. Il y a un contraste très fort entre les deux visions qui implique un choix moral. Et je dirais ce choix moral, c'est le renoncement à la volonté de toute puissance dont l'histoire nous montre le caractère mortifère. Premier point, donc, pour cet humanisme du Dieu fait homme. Deuxième point, la divinité du Christ n'est pas négation de son humanité. Il faudrait entrer ici un peu plus dans la théologie, mais je veux dire, voilà, dire que le Christ, pour la théologie catholique, est vrai Dieu et vrai homme, c'est dire qu'il n'y a pas absorption de l'humanité du Christ par sa divinité. Il n'y a pas négation de l'humanité. Le Fils de Dieu éternel a vraiment assumé un corps humain, une âme humaine. Et donc, comme la divinité du Christ n'est pas négation de son humanité, l'entrée en gloire du Christ ne signifie pas non plus une sortie de l'humanité. Transhumaniste considère, et j'y reviendrai dans le point suivant, les transhumanistes considèrent qu'il faut sortir de la nature humaine, que la nature humaine n'est qu'une étape, souvenez-nous ce que dit Max Mohr. Pour le christianisme, non. Le fait que le Christ, par exemple, dans le mystère de l'ascension, le Christ monte au ciel dans son corps. Le Verbe divin, le Fils de Dieu, pur esprit, avant de s'incarner, ne laisse pas son corps et son âme humaine sur terre en disant que « Ciao les gars, maintenant c'est fini, je reviens dans l'éternité et je laisse ma dépouille humaine. » Non, il remonte, pour la théologie chrétienne, dans son corps et son âme humaine, dans son corps glorifié. Voilà, la gloire du Christ est une humanité nouvelle, restaurée dans la splendeur que Dieu voulait lui donner dès l'origine. Pour prendre un autre exemple, si vous voulez, quand on se réfère au, à la vision de l'Apocalypse, au chapitre 12, donc c'est une vision, hein, ce n'est pas un fait historique, mais c'est une vision pour destinée à nous faire comprendre le mystère du Christ, eh bien, le chapitre 12 de l'Apocalypse montre le Christ glorifié comme un fils de la femme. Chapitre 12 montre une vision grandiose, une femme ayant le soleil pour manteau, etc. Mais elle met au monde un fils qui est un fils d'homme, un fils de femme qui est là, un vrai homme, fils de la femme. Ainsi, plutôt que l'exaltation de l'homme dans une modification technique de son humanité jusqu'à atteindre un au-delà de l'humanité, ce que le catholicisme propose, c'est l'ouverture par la méditation, par la prière, si vous voulez, et par l'attention à l'autre, une ouverture à l'action de l'Esprit de Dieu pour une bonification intérieure du cœur et de l'esprit. On n'est pas dans la recherche de la performance, mais de croître intérieurement. Deuxième point dans ce que, je dirais, proposerait le christianisme, après l'humanisme du Dieu fait homme, donc où on n'est pas dans la performance d'un homme qui sort de l'humanité, mais plutôt dans la vulnérabilité de quelqu'un qui reste encore dans l'humanité, même dans une humanité glorifiée après la mort. Deuxième point proposé par le christianisme, dans une proposition renouvelée, l'accueil de la bonté de la nature. La nature à la fois la nature humaine et de tout l'univers. Nous lisons dans le livre de la Genèse que, dans le récit de la création du monde, récit évidemment, contrairement à ce que pensent les créationnistes, qui n'est pas à prendre au pied de la lettre, dans le récit de la création du monde, et notamment de l'homme et de la femme, la Genèse dit « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, cela était très bon, tov mehod en hébreu, cela était très bon ». Par rapport à cela, si vous voulez, l'augmentation dénaturante, à la différence de l'amélioration de la condition naturelle de l'homme, hein, les exosquelettes, les implants cochléaires, ça peut être vu comme une amélioration de la condition naturelle de l'homme. En revanche, télécharger son cerveau sur un ordinateur, voire devenir un cyborg, c'est vraiment une augmentation, je dirais, dénaturante, et celle-ci remet en cause la bonté de la nature. Que les gens aient foi ou non en la création de la nature. En tout cas, remet en cause la bonté de la nature créée. Une promotrice de l'ère des cyborgs, Donna Haraway, H-A-R-A-W-A-Y, a pu écrire « La machinerie moderne est un jeune dieu irrévérencieux qui ridiculise l'ubiquité et la spiritualité du Père. » Il s'agit de Dieu le Père, évidemment, ici. Pour Max Moore, Dieu le Père est au mieux une quantité négligeable, car, écrit-il dans sa lettre à Mère Nature, il n'est apparemment jamais dans le coin. Il dit à quelque chose dans sa lettre à Mère Nature, « Ah, à propos, si jamais vous trouvez le Père, ben vous lui direz de ma part ceci et cela, parce que, bon, apparemment, il n'est jamais dans le coin. Bon. » Dans cette lettre à Mère Nature, Moore remercie Mère Nature pour tout ce qu'elle a accompli pour ses enfants, mais estime que son travail est profondément imparfait. En effet, refrain connu, nous sommes vulnérables aux maladies, aux blessures, voués au vieillissement et à la mort, juste au moment où nous atteignons la sagesse et nous sommes limités. Moore propose alors une série d'amendements à la constitution humaine pour améliorer les capacités de l'homme et passer d'une condition humaine à une condition transhumaine. La critique de Moore à Mère Nature est significative. Elle s'inscrit dans la tendance de toujours de l'homme de contester sa condition limitée, vue comme une frustration, voire une punition infligée par les dieux ou infligée par le Créateur. Que ce soit les mythes grecs ou que ce soit la foi chrétienne, mais mal interprétée, je dirais. À propos d'interprétation, nous avons dans les récits de la Genèse un herméneute, qui est le serpent. Dans le récit de la Genèse, le serpent prétend que l'interdit de manger du fruit de l'arbre au milieu du jardin n'est pas une protection contre la mort, mais une limite injustifiée à la capacité pour l'homme de devenir comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Selon ce serpent herméneute, donc, la libération de l'homme et de la femme passe par la connaissance. Par la connaissance éthique, d'abord, qui est en fait création de valeur indépendamment de ce qui est reçu de la sagesse de Dieu. Mais c'est sans doute tout type de connaissance qui est mobilisable pour l'œuvre prométhéenne de libération. La connaissance et ses applications pratiques, technologiques, permettent à l'homme de prendre en main sa destinée et à tendre vers l'invulnérabilité. Encore, si nous en tenons au Christ, lui nous révèle une toute autre réalité. Le Père créateur ne garde rien pour lui. En son Fils, il donne tout pour que l'homme participe à sa divinité. C'est ce que les chrétiens vont célébrer à Noël encore. Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Il s'agit donc de se défaire des fausses images que nous avons de Dieu. Comme l'écrivait l'exégète Paul Beauchamp, il s'agit d'éviter la projection sur Dieu d'une surpuissance en expansion indéfinie. Dieu n'est pas le Tout-Puissant qui fait tout. Beauchamp a des paroles intéressantes là-dessus sur le rôle du sabbat, et notamment dans la création. Dieu s'arrête. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu s'arrête ? Dieu s'arrête parce que, justement, la force de celui qui est Tout-Puissant, c'est qu'il n'a pas besoin d'exprimer sa toute-puissance. Beauchamp dit cette trépidation de l'homme qui veut avoir une activité les 7 jours de la semaine et toujours chercher plus est la marque de son impuissance, justement. Comme il a honte d'être limité, de ne pas être dans la toute-puissance, il cherche absolument à multiplier les actions. Il dit non, Dieu, lui, il s'arrête. Dieu est celui, dit le livre de la Sagesse, au chapitre 12, verset 18, celui qui domine sa force. Dieu se montre plus encore vulnérable, car il est amour. Dieu n'est pas simplement celui qui connaît tout, il est amour. Ici, ça me paraît très important dans l'équilibre de l'humanité, de se souvenir que la connaissance, évidemment, si Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour qu'on s'en serve. Donc, mais d'associer intelligence et amour. Sinon, on tombe dans le risque de la toute-puissance. La bonté de Dieu se révèle dans le don que le Fils fait de sa vie jusqu'au bout. Sa sagesse n'est pas au service de l'assouvissement de ses désirs arbitraires, mais au service de son dessein de salut. Plus sage que la folie du monde, pour paraphraser saint Paul, qui cherche la toute-puissance, et la sagesse de la croix, qui est victoire de l'amour. Troisième point dans ces réponses chrétiennes, le développement d'une éthique des vertus. Des écrivains athées comme Comte Sponville sont intéressés aussi à cette éthique des vertus, ou bien un philosophe issu du marxisme s'étant rapproché du christianisme, comme Alasdair MacIntyre avait, il y a quelques années, demandé le retour d'une éthique des vertus. Voilà, il me semble que ça fait partie de la réponse chrétienne aussi à cette vision transhumaniste qui est radicalement différente, vous l'aurez compris, à mon avis, de l'anthropologie chrétienne, le développement donc d'une éthique des vertus. En effet, la résistance à la fascination de l'homme augmenté passe par le développement de ce que toute une tradition philosophique ou religieuse appelle les vertus. Je vais m'arrêter sur 3 de ces vertus en particulier. L'ouverture à la transcendance, qui correspondrait à la vertu de religion, la tempérance et enfin l'amour, ce que la théologie appellerait plus spécifiquement la vertu de charité. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'ouverture à la transcendance ? Je vise surtout le souci de cultiver la méditation, la prière. La raison à laquelle se réfèrent les promoteurs de l'homme augmenté est une raison, je cite ici Benoît XVI, une raison close dans l'immanence technologique. Une raison close dans l'immanence technologique. Face à cela, le même Benoît XVI a invité à retrouver la conscience de la consistance ontologique de l'âme humaine. La santé de l'âme ne peut se confondre avec le bien-être émotionnel. Et l'homme a besoin, pour croître spirituellement et moralement, pour atteindre son plein développement et servir le bien commun, de retrouver le dialogue avec lui-même, et, en tout cas pour les croyants, et avec son Créateur. Pour citer de nouveau Jean-Guilhem Xéry, le transhumanisme est un symptôme de la crise de l'homme contemporain, en tout cas dans les sociétés occidentales, qui est une crise de son intériorité. Dépassant le seul cadre de la foi, Xéry invite à reconnaître que prendre la route de son intériorité est une réalité anthropologique qui caractérise notre vraie nature humaine. Il précise « Aller vers l'intériorité, c'est prendre le chemin de ce lieu de nous-mêmes qui est la source de notre vie, de notre dynamisme, de nos choix. » Un philosophe contesté par ailleurs, mais qui n'était pas croyant, Martin Heidegger, c'était aussi sur cette vie de la conscience, cette vie intérieure, comme source de notre vie, de notre dynamisme, de nos choix. Le souci de l'intériorité, avant tout dans la méditation ou dans la prière, nous centre sur l'essentiel de notre être et nous permet d'aborder avec le recul nécessaire les sollicitations constantes de notre monde. Méditation versus smartphone, si vous voulez. Deuxième vertu, la vertu de tempérance, qui me semble essentielle face à l'hubris qui peut s'emparer non seulement des tenants de l'homme augmenté, mais au fond de chacun d'entre nous, entraîné par la course vers la santé parfaite. Le monde de la santé est devenu un des domaines de l'économie consumériste, régi par les lois de l'offre et de la demande. Paul Ricoeur s'étonnait déjà des attentes déraisonnables d'une opinion publique qui demande trop à un corps médical dont elle redoute par ailleurs les abus de pouvoir. J'aurais dit ce que disait Paul Ricoeur, qui s'étonnait des attentes déraisonnables d'une opinion publique qui demande trop à un corps médical dont elle redoute par ailleurs les abus de pouvoir. Les théoriciens de l'homme augmenté sont adeptes du progrès perpétuel en se libérant des limites politiques, culturelles, biologiques et psychologiques à la réalisation de soi. Je cite encore une fois Max Moore. Le pape François, dans Laudato Si, sa grande encyclique sur l'écologie, nous invite à être vigilants par rapport à cette croyance en une bonté spontanée du progrès technologique, croyance qui fait fi des limites humaines. Une vigilance d'autant plus importante que des alliances existent entre théoriciens de l'homme augmenté et partisans de l'économie ultralibérale. En effet, les uns comme les autres récusent toute régulation étatique, dénonçant même celle-ci comme une menace au nom d'une autonomie autorégulatrice qui suffirait à garantir le bien-être de tous. Par rapport au marché de la santé parfaite et des mirages de l'homme toujours plus performant, chacun est appelé à réguler son désir, sous peine de participer activement à un système discriminant, notamment en termes de coûts, qui laisserait une part de l'humanité de côté. Un système qui, par ailleurs, vis-à-vis des ressources terrestres, poursuit une logique de l'appropriation au détriment d'une logique de l'appartenance. Je reprends cette opposition de nouveau à Yves-Charles Zarqua, qui dit « Attention, il y a la logique de l'appropriation, il y a celle de l'appartenance. » Dernière vertu, face à la logique de la performance technologique, le développement de l'amour en tant que vertu, en tant que choix, si vous voulez, choix habituel, ce que les catholiques appellent la vertu de charité, qui reste d'actualité. Vatican II, encore une fois, disait « La loi fondamentale de la perfection humaine et donc de la transformation du monde est le commandement nouveau de l'amour. Un commandement qui place l'espérance des fruits de l'action humaine non dans les nouveaux pouvoirs de la technique, mais dans l'imitation de l'agir d'un Dieu qui aime ses créatures jusqu'au don de soi. À ce propos, des valeurs communes peuvent sans doute être trouvées entre croyants et non-croyants autour d'une certaine éthique du don. Franck Damour, déjà cité, pointe ainsi la distinction entre le donner et le fabriquer. On rejoint l'Adrière, d'une certaine manière. La distinction entre le donner et le fabriquer. Selon lui, le transhumanisme manque ce qui fait le propre de l'homme. L'homme ne s'est pas fait lui-même. Le transhumanisme risque alors de réduire l'autre au statut d'objet programmé, en se référant à l'expérience universelle de la natalité, c'est-à-dire d'être né de quelqu'un d'autre et sans être le fruit d'une programmation complète. On rejoint vos travaux. D'Amour pense possible de bâtir des relations humaines respectueuses du caractère unique de chacun, ce qu'il appelle une éthique de la déprise, fondée sur la vulnérabilité, la fragilité, la compassion. Mon quatrième point, très rapidement, avant de dire quelques mots de conclusion, est le rappel des bases d'une bonne exégèse. Les transhumanistes, comme certains parlementaires, ont une vision assez fondamentaliste de la lecture de l'écriture. Je pense à ce que des représentants catholiques se voient opposer dans les auditions en vue des lois, en disant « Mais, Monseigneur, vous êtes contre la GPA, mais regardez la Bible. Regardez Abraham, Sarah, sa servante et tout. La GPA, c'est dans la Bible. » C'est ce que j'appelle une lecture fondamentaliste de l'écriture. C'est-à-dire, d'abord, allons jusqu'au bout du récit, qui est là comme un récit, et qui est à inscrire dans l'histoire, notamment des traditions de filiation mésopotamienne. Et le récit montre que ça ne marche pas, justement. Le récit montre que la GPA, entre guillemets, qui n'est pas tout à fait assimilable d'ailleurs à la GPA d'aujourd'hui, puisqu'il ne s'agit pas de nier la mère qu'on appellerait, entre guillemets, biologique de l'enfant. Je vous rappelle que l'épisode qui se répète de temps en temps, où en l'occurrence, Sarah, la femme d'Abraham, ne peut avoir des enfants, et donc elle dit à sa servante Zilpa, ou plutôt elle dit à Abraham, « Va vers ma servante Zilpa et qu'elle m'enfante un enfant. » C'est ainsi qu'Isaac naît, et Sarah prend Isaac sur ses genoux, c'est Ismaël, justement. Isaac naîtra plus tard de Sarah et d'Abraham. Mais Sarah prend Ismaël sur ses genoux et dit, voilà, j'ai enfanté Ismaël. Mais après coup, Sarah engendre naturellement Isaac et elle demande à Abraham de chasser Ismaël et sa mère. Donc à la fois, on ne nie pas que Zilpa soit la mère d'Ismaël. Agar, pardon, je suis un peu fatigué là, alors j'intervertis, mais que Agar soit la mère d'Ismaël. Et puis on voit justement que la conclusion, c'est une certaine violence, une certaine concurrence, et que ce n'est pas forcément à faire. Mais mon point, c'est de dire, attention, on ne peut pas se contenter de dire, comme Max Moore le disait à cette fameuse conférence à Pistoia, voyez la Genèse, on a tous ces personnages qui vivent Mathusalem 900 ans et plus. Attention, le texte de la Genèse ne se prétend pas en tant que texte comme un récit historique. Il se présente comme un récit, on peut utiliser le terme mythologique si vous voulez, de discernement de la condition humaine. Mais ne prétend pas une exactitude historique. Donc il ne s'agit pas de dire, vous voyez, en plus, la Genèse dit à un moment donné, mais l'homme ne vivra pas plus de 120 ans parce qu'après c'est trop lourd. Comme dirait l'autre, ça poserait vraiment un problème pour les retraites. Mais mon point, si vous voulez, et j'en terminerai là, c'est qu'on ne peut pas avoir une lecture fondamentaliste de l'écriture. Il faut prendre en compte. L'histoire, l'exégèse catholique n'a pas peur de passer par le crible de l'historico-critique, même si ça a été douloureux au fin 19e, début 20e, n'a pas peur de prendre en compte les acquis de l'herméneutique des textes, le texte, son lecteur, le contexte historique dans lequel il a écrit, les différents styles littéraires, voilà. Enfin, c'est juste ce point-là à la fin. Quelques mots de conclusion. Donc, je vous présente, comme annoncé, un regard critique d'un théologien catholique sur le transhumanisme. Ce regard critique ne vise pas, bien sûr, à condamner les progrès technologiques, mais à poser la question du discernement sur l'usage qui en est fait et à dénoncer, oui, des théories qui s'y réfèrent au service d'un projet qui me semble finalement déshumanisant. Bénéficiaire d'investissements financiers considérables, le transhumanisme promeut souvent par rêve, parfois par désespoir, je pense à Monsieur Truong, si j'ai bonne mémoire, qui dit « mais au fond, après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, on ne peut plus avoir confiance en l'homme, donc il faut passer au transhumain ». Donc, en tout cas, le transhumanisme promeut une sortie de l'humain, ayant pour préambule la sélection anténatale intensive et la soumission du plus grand nombre aux exigences d'une performance tous azimuts. Pour leur part, les catholiques adhèrent progressivement à ce qui peut s'appeler une écologie humaine ou encore une écologie intégrale, où l'on cherche à associer la nécessaire attention à la sauvegarde de l'environnement, à la prise en compte de l'homme dans sa réalité corporelle, spirituelle et sociale. Très présent, évidemment, dans Laudato si. Le cœur du message chrétien est la gratuité de l'amour, puisé dans le cœur de Dieu. Comme source de tout être, l'amour nous fait échapper à tout esprit de classification discriminante. Sans doute, croyants et non-croyants peuvent-ils se retrouver autour de ce que le pape François appelle une « sobriété heureuse », où notamment l'attention aux plus vulnérables est le meilleur antidote contre les illusions dangereuses de la toute-puissance. D'ailleurs, la mission première du droit n'est-elle pas de protéger de l'injustice les plus vulnérables ? Et je terminerai sur cette interrogation. Merci. Pardonnez-moi d'avoir été un petit peu long.